Vous trouverez peut-être que ma présentation est un peu littéraire, mais on vient de dire que ça avait aussi des vertus méthodologiques. En même temps, cet exposé il est certainement ancré dans ma pratique professionnelle, puisque ce qui n'a pas dit Michel, c'est que je suis urbaniste, géographe de formation, que j'ai travaillé dans une société d'économie mixte, que j'ai travaillé dans un CAUE, donc que ces pratiques aussi dans le périurbain, puisque j'étais dans un département qui est entre Lyon et Genève, donc vraiment bien placé en termes périurbains, et aussi essayer de... Enfin, je vais dire, en tout cas, vu l'évolution des pratiques de la concertation qui ont considérablement changé dans les années où j'ai travaillé. Donc, ce géographe qui est immobilisé à Francfort-sur-le-Main, et là, il est dans son lieu de travail avec des interactions. Le mot « interaction », c'est quelque chose que je voudrais développer aussi avec vous pendant mon exposé. Donc les interactions, elles sont plutôt réduites au silence. Et donc, dans mon texte, j'ai plus longtemps développé la description de ce tableau, mais là, je voudrais surtout vous faire remarquer son regard. On ne sait pas s'il s'est absenté ou s'il est perdu dans un calcul. En fait, Vermeer a peint ce géographe 30 ans après que Descartes ait écrit son discours de la méthode. Je ne suis pas sûre d'être très méthodique ni riche en méthodologie, mais on va au moins parler de ce discours-là. Et ce discours va sûrement bien au-delà d'une citation que je voudrais vous donner. Puis, examinant avec attention ce que j'étais et voyant que je pouvais feindre, le mot « feindre », je pense, est important, on n'y pense pas toujours, donc feindre que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, je connus de là que j'étais une substance dont toutes les sens ou la nature n'est que de penser et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Donc, aucun lieu, aucune chose matérielle, juste un compas. On comprend peut-être le changement de paradigme qui est nécessaire pour transformer la géographie et la faire devenir une science sociale, avec la richesse de ce mot, qui s'intéresse moins à la localisation des êtres humains sur la Terre qu'à leur manière d'y vivre, moins à des mesures qu'à des relations avec des lieux et des choses dont sont faits les milieux humains. L'effectivité, c'est sûr, c'était un petit jeu de mots et le plaisir du paradoxe, mais je pense que Patrick, ce matin, a parlé tout cela implique des méthodes d'appréhension sensible aux singularités, de les regarder, les lieux, en s'attachant aux réciprocités qui les constituent ou leur feraient défaut, y compris dans des territoires dont nous n'accordons pas auxquels nous n'accordons pas notre regard, Chéri vient d'en parler, qui ne ferait pas lieu. Est-ce que ça existe? Parce que si l'on définit les lieux par les possibilités de leur appropriation, le regard alors n'est pas leur seul garant. Cela nous incite à qualifier ce qui a justement le pouvoir de relayer, voire de se substituer au regard, ce terreau affectif qu'est le sens qu'on donne aux lieux, malgré leur prétendue banalité, ou si cela existe, leur inhabitabilité, s'ils sont habités, ils sont forcément habitables. Donc, je vous propose d'aller à la recherche de ce sens autour de trois acceptions. Sens comme sensorialité ou sensualité, avec la qualité des sensations charnelles. J'ai commencé à quelle heure ?
J'ai parlé depuis 4 minutes.
4 minutes, bon, ça va. Qualité des sensations charnelles, donc pour cette sensualité, signification, qualité des sentiments, par exemple, ou sens comme direction, avec la qualité des finalités recherchées qui nous projettent dans l'espace et le temps. À ces trois acceptions, est-ce qu'il faut joindre celle de sens commun. Un mot issu du latin « munus » qui implique le fait d'un échange, d'une réciprocité, et suggère l'idée d'un don que l'on fait et qui implique un retour, une contrepartie. Je viens de citer Pierre Rosanvallon dans « La société des égaux ». Ce sens est par essence indissociable de l'idée d'une interaction, d'une communication. Ces quatre sens qualifieraient, dans des constellations changeantes, ce rapport affectif au lieu qu'on peut repérer autour de médiations sociales, politiques, aptes à franchir ponts et portes qui préexistent, des cadres qui préexistent que nous nous donnons, pour une séparation et une mobilité à la fois pouvant briser cette limitation à tout instant pour gagner la liberté. Donc là, je cite Georg Simmel dans son essai qui s'appelle « Ponts et portes ». Je citerai un autre essai qui est dans « La tragédie de la culture », un livre que je vous invite à lire, et en particulier la préface de Vladimir Yankelevitch. Mais moi, après être revenu à Sorizy, être passé sur ces petits ponts de la convivialité dont nous sommes devenus familiers, je pense que pour illustrer cette idée de pont et de porte, ils sont particulièrement parlants. Donc, avec ce cercle des couleurs de Goethe, qui présente, il se trouve que la traduction française a hélas disparu, mais on voit donc l'imagination, la raison, l'entendement et la sensibilité ou sensorialité. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais peut-être qu'en le regardant, cela va vous inspirer un petit peu. Parmi les manières de pratiquer les métiers qui s'intéressent à la transformation des lieux, Chérif a décrit certaines pratiques en évolution et en adaptation la plus fine possible au territoire qu'ils ont à comprendre. Les relations affectives semblent peut-être de plus en plus marquantes, et en tout cas, je les ai entendues décrire par des personnes qui travaillent en collectif. Donc là, voilà. Là, c'est la présentation en fait du site de l'atelier Bivouac, que je ne connais pas personnellement, je les ai juste entendus une fois. Ils font ce qu'ils appellent de l'urbanisme rural. Et ce que je crois le plus important à mettre en avant, c'est l'étape de préfigurer, puisqu'en étant en résidence dans les lieux sur lesquels ils travaillent, ils prennent le temps de tester finalement les projets au plus près du terrain. Cela permet aussi de prendre conscience des affects qui mobilisent chacun, des valeurs qui motivent à œuvrer différemment, en travaillant en résidence, en essayant de comprendre sur les lieux ce qui motive les habitants, les usagers, et également de voir ce qui motive chaque professionnel, ses réactions sur le terrain pour soi-même et au sein de l'équipe, ce qui permet d'aller au-devant de temporalités proches de ce que Pierre Sansot appelle un urbanisme retardataire, je vais le citer, sensible à une connivence d'ordre poétique et non un jeu de contre-détermination, de boyaux d'étranglement, de gendarmes couchés, de signes dissuasifs. Là, je voulais évoquer un autre projet, et j'ai fait la découverte ce matin en regardant de plus près l'affiche du colloque du mois de septembre que Paola Vigano sera présente. Je crois que le titre de son exposé, c'est « Que peut un sol ?». Et là, en fait, cette image est extraite d'un des films qui a été fait par Jacques Lévy, qui s'appelle « Thinking Places ». Et donc là, elle est au cimetière de Courtrai, et on verra tout de suite deux images à Anvers. Donc ce projet qu'elle a fait avec Bernardo Secchi, je ne pensais pas qu'on en parlerait aussi avec cet exposé de tout à l'heure. Donc, Paola Vigano, elle a choisi, on le remarque un petit peu en fond, le cimetière de Courtrai qu'elle a aménagé avec Bernardo Secchi. Dans le film, elle explique leur méthode, qui est de décrire le lieu au plus près, avec le souhait de faire partager par le plus grand nombre ce lieu, justement. Par ailleurs, elle explique comment ce cimetière est situé en territoire périurbain et qu'ils auraient aimé, avec ce projet, affirmer un principe de continuité entre les infrastructures qui sont situées dans le voisinage, infrastructures fonctionnelles, entre guillemets, mot chéri de certains urbanistes, donc infrastructures qui auraient été transcendées par une variété d'activités créant des vrais lieux pour se rencontrer. Mais là, c'est un échec du projet. Le principe de continuité a été contredit par l'évolution effective des abords qui n'ont pas du tout trouvé l'usage qu'ils espéraient au-delà de leur fonction première. Le cœur du projet, en réalité, a vraiment une dimension affective puisque c'était aménager le cimetière comme un espace public manifestant une proposition ouverte à tout un chacun. Partager ensemble ce qu'il nous reste à vivre. En même temps, ce projet, il n'est sans doute pas partageable par tout le monde. Si je parle de mon expérience personnelle, certes, par exemple, ma mère qui est morte très jeune, est enterrée dans un petit village du Jura. En revanche, les cendres de mon père, selon sa volonté, ont été dispersées. Le lieu est donc beaucoup plus difficile à identifier. Et pour faire une résonance avec l'exposé de Patrick Romieux ce matin, on sait aussi qu'est-ce que c'est que cet espace partagé par tous dans un lieu dont on sait qu'on veut éviter la plupart du temps son objet principal qui est la mort. Donc, comment créer un monde humain concret J'ai cherché des images, et c'est drôle, je suis juste tombée par hasard sur cette phrase de Paola Vigano. C'est vraiment un peu le hasard, mais j'ai trouvé ça bien adapté à nos questions. Je m'oppose donc complètement à l'idée qu'il faut un programme, et que c'est de celui-ci que découlera l'espace. En introduction, je voulais aussi donc vous dire que mon exposé est sans doute assez composite, mais que j'espère donner quelques repères. Et en particulier, je voudrais vous proposer cette distinction que fait Augustin Berk entre deux mots grecs, kora et topos. Pour lui, dans le topos, c'est là que sont situés des objets. Ils sont là, comme ils pourraient être ailleurs. C'est-à-dire qu'ils sont des objets séparables du lieu. Pour lui, la notion de kora implique exactement le contraire. Par exemple, une architecture engagée dans son lieu et qui, par cela même, déploie un milieu humain. Je le citais. Je trouve, pour parler de kora, il peut être intéressant de rapprocher avec cette idée de Paul Klee, et dire que la kora relève en quelque sorte de cette chose qu'il faut envisager comme genèse, comme mouvement. Son être est le devenir, et la forme comme apparence n'est qu'une maligne apparition, un dangereux fantôme. Bonne donc la forme comme mouvement, comme faire, bonne la forme en action, la forme est fin, la formation est vie. Et là, je ferai écho à l'exposé de Pascal Novel l'autre jour, qui parlait de tonalité affective, en citant la philosophie du paysage de Georg Simmel, donc où il parle de façon centrale de la Stimmung, donc de la tonalité affective, où il dit « Le paysage est formation spirituelle et sensible liée aux diverses énergies de notre âme, perceptives et affectives. La déchirure entre un moi qui voit et un moi qui sent se révèle doublement aberrante. C'est avant tout notre personne que nous. C'est avant tout avec toute notre personne que nous nous plantons devant le paysage. Donc là, d'ailleurs, on voit l'ambivalence où il dit que c'est une formation spirituelle et que finalement, devant ce paysage, on va se planter. Il y a se planter au sens comme un arbre, hein, n'est-ce pas? J'espère que je ne vais pas tout à fait me planter, mais je me rends compte que mon exposé est plus long que prévu. Voilà. Voilà. Donc je vais revenir quelques instants à Augustin Berg, qui a participé, je crois, en 2007 ou en 2008, comme nous aujourd'hui, à un colloque avec Javier Maderuelo. Il en est sorti... Là, c'est tout ce que je ne vous ai pas montré. Il en est sorti cet acte de colloque. D'ailleurs, on voit qu'il y avait Jean-Marc Bess, Anne Coquelin, Augustin Berg. Et en rentrant de ce colloque, en fait, en quelques jours, Augustin Berg a écrit un livre, un petit livre, qui s'appelle « La pensée paysagère ». Et en fait, pour moi, dans la difficulté de ce livre, c'est que cette pensée paysagère, elle est réfléchie, elle est présentée au passé. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est comment serait-il possible de la conjuguer au présent ? Peut-on tenter de faire une proposition d'avenir en actualisant cette pensée agissante, étroitement liée à une manière de vivre, une manière d'exister de génération en génération, qui manifesterait objectivement un goût très sûr dans l'aménagement de ce que nous appelons aujourd'hui le paysage. Mais cela suppose sans doute une affectivité, une manière de vivre assez contrainte. Et puis, quelle est cette notion d'un goût universel, très sûr, dans lequel nous nous reconnaîtrions tous ? Des géographes peuvent peut-être nous venir à la rescousse. C'est Anne Volvet et Yann Calberac qui ont écrit un article sur la pensée paysagère, où ils disent « La pensée paysagère renvoie à l'exercice de la faculté d'éprouver, aux expériences qu'elle fonde et à leur contenu, les éprouvés perceptifs, moteurs et kinesthésiques, émotionnels, d'un corps engagé dans des agirs relationnels et les dimensions de l'activité qui en découlent. » Vous avez vu que je suis passée assez facilement ou sans qu'on s'en rende bien compte de lieu à paysage. J'avoue que durant ce colloque, je ne sais plus très bien ce qui les distingue vraiment lorsqu'on leur applique un rapport affectif. Peut-être qu'entre agir, je pense que c'est très important pour parler du paysage aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas autrefois. Une pensée paysagère contemporaine devrait être à même de s'engager en cherchant comment renouer avec la façon d'agir de ceux qui vivaient, je cite, « en liaison concrète avec ces choses dont ils n'avaient pas fait des objets. Ils en prenaient soin parce que c'était leur existence quotidienne. » Ça, sans doute qu'on peut encore le partager. Comment est-ce que finalement le paysage peut faire lieu ? Comment pourrions-nous donner lieu au paysage, sachant qu'il y faut aussi la dimension temporelle, du rythme, des interactions, c'est certain. Pour terminer, je ne sais pas si vous pourrez rentrer dans cette proposition, mais je vous la fais quand même. Je voudrais citer un extrait de Giorgio Agamben dans son texte sur l'amitié. Amitié traversée par une intensité où on retrouve sans doute le quatrième sens, le sens commun dont je parlais tout à l'heure, avec ce qui partage, dissémine et rend partageable, mieux, toujours déjà partagé, la sensation même, la douceur même d'exister. Les amis ne partagent pas quelque chose, ils sont toujours déjà partagés par l'expérience de l'amitié. Peut-être que c'est quelque chose qu'on ressent, nous, depuis le début de ce colloque et avec les jours qui passent. Chacun peut le ressentir ou ne pas le percevoir. L'amitié est le partage qui précède tout autre partage parce que ce qu'elle départage est le fait même d'exister, la vie même, et c'est cette partition sans objet, ce consentement, ce sentir ensemble, original, qui constitue, et là j'ouvre sur un mot très fort, que Patrick a bien su rendre signifiant ce matin, donc ce consentement original qui constitue la politique. Alors si nos rapports affectifs avec les lieux sont de l'ordre de cette amitié, comment pouvons-nous nous en saisir politiquement ? Avec Christophe, on avait envisagé toute une série de questions en conclusion de notre intervention, mais je pense que les vôtres suffiront.
Je te remercie. Merci beaucoup, nous te remercions. Merci à toi, juste une insiste, de nous faire sentir que peut-être les définitions se brouillent, mais intuitivement, nous percevons aussi, ensemble, par la convivialité, par les ponts à la Zimmel, ce dont il s'agit, vers quoi il faut se diriger. Merci Isabelle.